Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus jusqu'à nous. Merci donc à Tiphaine Samoyau et Gilles Nadeau d'être venus aussi donc jusqu'à nous pour nous parler de Maurice Nadeau. Nous sommes ce soir rassemblés autour de la figure de Maurice Nadeau. Je ne sais pas comment on va pouvoir le présenter. Je discutais tout à l'heure avec Pierre Coutel et je lui disais finalement chacun a son Nadeau. Pour moi, c'est surtout le découvreur de Georges Perec, mais effectivement, il a été. C'est un homme qui a eu tant d'activités. Il a donc été journaliste, chroniqueur. C'est surtout ce qui nous intéresse ici ce soir, puisque donc sont rassemblés tous ces textes qui font masse, qui font corps, qui sont épais, riches, des années donc de l'après-guerre au sein du journal Combat. Nous allons en parler. Mais il a donc été aussi longtemps un directeur de collection dans des maisons qui lui ont fait confiance et où il a publié tant d'auteurs de talent. Aux éditions du Pavois, je risque d'en oublier, chez Correa, chez Julliard, puis finalement chez De Noël. Il est passé rapidement chez Robert Laffont, puis il est devenu pleinement éditeur. Sous sa marque, sous son nom, Maurice Nadeau. Il a été juré. Bref, il a eu énormément d'activités. C'est vraiment un homme qui a été au cœur de son époque. Et ce qui frappe aussi, on en parlera, c'est que finalement, il s'est très peu trompé. On a l'impression que rien ne lui a échappé, qu'il a tout vu. Bon, de manière impressionnante, je ne vais pas tout dire d'un coup, mais il a notamment été parmi les premiers donc à repérer Samuel Beckett après que Zara a pu insister pour lui dire « mais il faut regarder ce que fait cet auteur irlandais ». Bref. C'est un homme très, très impressionnant. Et peut-être qu'avant de parler un peu de lui et de vous laisser donc le présenter, on peut regarder un petit extrait tout de suite du film que vous avez réalisé, Monsieur Nadeau, donc sur votre père. Et je crois que c'est donc un passage où il parle tout particulièrement de son époque chez À Combat et sa rencontre avec Camus.
Tout à fait. Nous sommes au sortir donc de 1945, Maurice Nadeau vient d'être engagé à Combat, le journal de Pascal Pia et Albert Camus. Et je l'avais interrogé de son vivant en 1997, et ça donne ceci. Alors je lance le.
Une des gloires littéraires du moment, François Mauriac.
Comme critique, j'avais du succès. Disons-le, parce que ça venait de moi un peu, mais ça venait du journal dans lequel j'écrivais, qui était, et puis de la confiance qu'on me faisait, que m'avait fait le patron du journal. Et puis c'était le journal de Camus, c'était le grand journal de la résistance, des intellectuels, etc. Donc c'était, l'importance venait du journal où j'écrivais. Donc Mauriac pouvait pas être, puisqu'on parle de lui, il pouvait pas être indifférent à ce que j'écrivais. Et ça l'empoisonnait, parce que c'était l'époque où je magnifiais Sartre, l'existentiel, enfin j'étais aussi dans le coup, hein, le surréalisme, etc. Et puis vous voyez que Mauriac, lui, il était resté sur le bord de la route, au fond. Et ça lui déplaisait, parce qu'un auteur, un auteur qui se voit vieillir, c'est terrible. Il se voit vieillir non pas par l'âge, mais par le fait que les gens se détachent de lui, ne le lisent plus. Lisent de moins en moins, et ça c'est terrible, probablement. Ben, il avait senti ça, alors il a essayé de m'appâter comme ça, en me faisant des compliments, et en même temps une remarque féroce. Il serait le meilleur critique de son époque s'il était moins opaque au spirituel. Ah, ça veut dire quoi? J'avais tout bouché. J'étais un positiviste, un terre à terre, machin, je comprenais rien à rien, ce qu'il y avait au-dessus, et, etc. Enfin bon, bien sûr. Alors, il savait pas qu'au même moment, j'adorais Bernanos, par exemple, qui était aussi de son camp, mais c'était tout à fait... Lui, c'était un catholique militant, donc quelqu'un qui aurait dû pas me plaire, mais qui avait montré une force... personnel, enfin extraordinaire, à la fois au moment de la guerre d'Espagne et puis ensuite quand il est parti au Brésil. Enfin, c'est bon. Mais je ne pouvais pas lui dire que Claudel, ça ne me plaisait pas non plus. Claudel, actionnaire de Nyon-Mérone, moi, c'était fini. Hein, c'était pas bon. Ça peut être un grand écrivain, je vois bien. Mais les grands écrivains comme ça, j'avais rien à faire. Hein.
Dans le journal qu'il dirige, Albert Camus prend aussi la plume. Non pas pour intervenir dans les querelles littéraires du moment, mais plutôt pour affirmer une orientation politique. Les contacts entre l'écrivain au sommet de la célébrité et mon père ne donnent pas dans la simplicité.
J'ai essayé de faire amitié avec lui, bon, puisque j'avais été exclu du Parti communiste, il avait été lui aussi, alors je pensais qu'il y avait un terrain d'entente. Et quand il m'a dit un jour au bar qu'on prenait... Moi, je n'ai jamais été au Parti communiste. J'ai dit, merde, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se méfie de moi ou quoi? Ou il oublie son passé ou quoi? Alors, j'ai changé un petit peu d'attitude en même temps que je n'arrivais pas à le tutoyer. Je tutoyais Pierre, je tutoyais tout le monde se tutoie dans le journalisme. Et Camus, alors, il m'a dit un jour, écoute, tu me tutoies ou pas? J'ai dit, d'accord, Albert. Enfin, je le suis mis à le tutoyer, mais ça passait pas quand même. Ce qui nous rapprochait, c'est qu'on avait les, si j'ose me mettre sur le même plan, on avait les mêmes origines. Sa mère était femme de ménage, concierge, illettrée, comme la mienne. Enfin, il en avait bavé étant gosse. Bon, il y avait quelque chose qui nous rapprochait. Il m'avait entraîné, là, dans des petits trucs, enfin... Dans la rue qui est parallèle au boulevard Saint-Michel, la petite rue, il y avait le cinéma, il y avait une boîte. Alors il s'amusait à danser avec Sartre, là aussi, que je voyais danser comme... Il se foutait de Sartre, regarde comme il danse, comme un ours, enfin c'était pénible, alors que lui était l'homme beau garçon et chéri de ses dames. Hein. C'était, il se balait toujours avec une femme à chaque bras, c'était quelque chose. Hein. Puis il a eu le Nobel, alors ça c'était la fin, il n'y avait plus de... Il acceptait les honneurs, les machins, c'était pas la peine, puis il y a eu Algérie aussi, il faut dire.
Autre grande figure de...
Oui, alors il faut replacer, cet extrait dans son contexte. Ça a démarré, l'extrait a démarré un tout petit peu tard pour présenter François Mauriac comme une cible, qui représentait la vieille génération des écrivains. Et au contraire... En face de cela, et Tiffaine peut-être va en dire deux mots, une nouvelle génération qui compte, effectivement, les noms prestigieux de Beckett, Char, Michaud.
Oui, je veux bien en dire quelques mots. C'est ce qui est passionnant dans ces écrits de combat, c'est qu'effectivement, on est dans un journal qui est donc issu de la Résistance. C'est un journal qui a été créé dans la clandestinité en 1942. Pia a constitué progressivement son équipe au moment de la libération en cooptant Camus d'ailleurs en Algérie et puis Nadeau à Paris en 1944-45. Et donc le journal devient un des organes les plus influents dans les milieux intellectuels et même au-delà des milieux intellectuels juste après la guerre. Et on se rend compte que c'est une époque de refondation de valeurs, c'est-à-dire que toutes les valeurs, qu'elles soient morales, littéraires, esthétiques, voire politiques, là c'est peut-être un tout petit peu différent, ont besoin d'être refondées. Et il y a tout un effort, on sent, de ce journal, et en particulier de Nadeau, mais il n'est pas le seul, hein, Camus y participe aussi, pour essayer de ressouder la communauté. Et pour la ressouder, évidemment, on ne va pas aller chercher les vieilles lunes ou les livres qui sont parus dans les années 30 ou les écrivains qui ont été des références à ce moment-là. Mais on va chercher les écrivains qui sont capables de parler de la situation d'aujourd'hui. Et donc, il y a tout un travail, même sur le langage, qui doit être mené pour nommer ce qui a eu lieu. Donc il y a par exemple tout un travail que Nadeau fait autour de la formule « littérature de la résistance ». Est-ce que ça a un sens de parler de littérature de la résistance ? On voit apparaître aussi un premier débat, et c'est tout à fait étonnant, parce qu'on sait le temps que ça va mettre à s'installer dans la suite de l'histoire, de littérature des camps. Hein, c'est un des premiers textes publiés autour des camps, c'est le texte de David Rousset. C'est Nadeau qui le publie, c'est son premier livre publié en tant qu'éditeur. Et donc il y a tout ce tâtonnement d'une époque qui cherche à savoir ce qu'elle est, ce qu'elle va devenir. Et bon, c'est un aspect évidemment majeur de ce journal. Alors juste pour petite précision historique, Camus, on pense toujours, parce que c'est l'autorité de Camus qui fait ça, que Camus dirigeait Combat. Ça n'était pas le cas. Hein. C'était Pascal Piat, donc qui était un grand ami de Maurice Nadeau, qui est une figure un peu oubliée aujourd'hui, mais qui a publié aussi tout un feuilleton littéraire, qui a été un critique très influent de cette époque. C'est Pascal Piat qui dirigeait ce journal au moment où Nadeau y entre, et Camus est l'éditorialiste. Hein, donc c'est lui qui est responsable de la ligne politique. Alors là, on a senti une... Enfin, alors il faut penser aussi que le film est tourné plus de 50 ans après les événements. On sent une distance très grande de Nadeau à l'égard de Camus en 1997. On la sent moins dans ce livre. On sent quand même que Camus, il est très, très... il est vraiment décisif pour cette refondation morale. Il est un peu l'écrivain à l'aune duquel tout est jugé. C'est-à-dire, c'est vraiment la référence. Alors, il y en a d'autres, on pourra en parler, hein, bien sûr, Sartre et d'autres, même des écrivains comme Gary, Koestler, qui sont très, très marqués hein, dans ce livre. Mais Camus est évidemment l'autorité littéraire majeure. Pourquoi ? Parce que c'est aussi une autorité morale. Hein, et qu'on sent qu'on peut difficilement séparer l'écriture sur la littérature de cet enjeu ou de cet engagement politique ou moral qui est très très important à cette époque. Il y a un petit détachement au moment de la publication de La Peste. Alors ça, c'est très intéressant, parce que je pense que vu d'aujourd'hui, ça n'est pas si net, hein, mais que beaucoup de critiques reprochent, et Barthes le fera aussi, hein, beaucoup de critiques reprochent à Camus La Peste, lui reprochant dans La Peste d'être trop mythologique, de quitter un petit peu le terrain de l'engagement concret hein, dans la société contemporaine. Alors qu'aujourd'hui, on peut tout à fait lire cette allégorie de la peste comme un roman politique, mais les contemporains ne l'ont pas fait. Ça, c'est tout à fait intéressant. Donc là, on sent déjà qu'il se détache un peu de Camus, mais rien à voir avec ce détachement un petit peu ironique qu'il a dans ce film.
Le volume, d'ailleurs, est très lié, enfin, ou en tout cas assez lié à la personne de Camus, puisque j'ai noté que il se clôt avec la recension de l'homme révolté, si je ne m'abuse. Donc il démarre un peu avec l'engagement au sein du journal Combat. Il se termine par une lecture qui était peut-être aussi déjà un petit peu critique aussi de l'homme révolté.
Un petit peu critique, mais qui rappelle en même temps la nécessité de la révolte. Hein. Donc il y a quand même un endroit où Nadeau rejoint Camus, même dans cette critique un tout petit peu à distance.
Est-ce qu'on peut peut-être rappeler ce qu'a fait Maurice Nadeau juste avant et comment il a été, en fait, coopté, choisi par Pascal Piat pour intégrer le journal Combat, qui était donc un journal de grand prestige à la Libération ?
C'est un journal issu de la Résistance, un ancien journal clandestin. Et il se trouve que c'est un pur hasard. Hein. Le hasard fait que Maurice Nadeau avait été engagé dans des groupes trotskistes de résistance qui comptaient comme autre personnalité David Rousset, qui avait été interné dans les camps et qui en avait ramené justement deux ouvrages. Un premier que mon père a donc publié aux éditions du Pavois, c'est pas les jours de notre mort, c'est l'univers concentrationnaire qui obtient le prix Renaudot et qui sera suivi d'un roman, le premier étant un essai, qui sera suivi donc d'un roman qui est Le jour de notre mort, un énorme pavé de 700 pages où il peut aborder la vie quotidienne dans le camp. En expliquant que c'est que la forme romanesque le lui permet. Il ne pouvait pas en faire un état de ce qu'il avait pu constater. On comprend pourquoi. J'ai perdu le fil.
Non, mais c'est pas grave. Mais à mon avis, quand il a été surtout, recruté, il venait de sortir l'histoire du surréalisme.
Oui, alors donc c'est son ami Paul Baudin qui était un grand reporter à Combat, qui couvrait les procès de Nuremberg, qui travaillait donc à Combat, qui a introduit mon père, qui venait juste d'écrire ce bouquin, et l'histoire du surréalisme. Et mon père raconte toujours qu'il vient en visite voir Pascal Piat, qu'il estime. Et Pascal Piat, il y a une sorte de petit malentendu, Pascal Piat pense que Maurice Nadeau est venu demander un emploi, ce qui n'a rien d'extraordinaire au fond, mais ce n'était pas le cas. Mon père venait d'être nommé professeur en province, il s'apprêtait à rejoindre son poste, il vient juste en visite et Piat lui dit « à demain ». Alors, mon père se rend compte qu'on lui propose donc de travailler à la page littéraire de Combat, qui paraît à ce moment-là sur deux pages. Il va donc accepter, il saute sur l'occasion. Je pense que dans sa tête, ça correspondant à un désir secret. Et eh bien, il va se mettre au travail. Et c'est assez étonnant, lorsque j'ai rassemblé ces textes, de constater que c'est un grand travailleur qui a publié presque une centaine d'articles en 1946. Oui, parce qu'il ne se contentait pas d'écrire dans Combat, mais il écrivait aussi dans la Revue internationale de Pierre Naville, et il écrivait dans le journal des jeunesses socialistes qui s'appelait Gavroche, et puis de temps en temps des articles dans le Mercure de France. Bon, voilà, ça faisait une assez grosse somme.
Ça fait 1500 pages en l'espace de quelques années à peine. C'est très impressionnant. Mais on va parler un peu de toutes ces lectures. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on se dit, quand il vient voir Pascal Piat, il dit qu'il est trotskiste. Et donc, ça devrait plutôt effrayer. On devrait se dire, ben voilà quelqu'un qui ne va pas du tout juger de la littérature et de l'actualité des lettres de manière équilibrée, sensible. Or, on a l'impression que, comme par magie, Pascal Piat sait qu'il peut lui faire confiance pour avoir à chaque fois, au fond, une lecture très fine de tous ses textes. Parce que finalement, ce qui ressort de tout cela, c'est qu'il s'est très peu trompé. Enfin, il a tout de suite su estimer les auteurs dans leurs importances. C'est ça qui est très impressionnant quand on le lit maintenant avec ce décalage, au fond.
Oui, alors il faut souligner qu'en effet, la ligne politique de Combat n'est pas une ligne trotskiste. Enfin, en tout cas pas majoritairement, mais que le journal, au début, au moment où il sort de la clandestinité, est ouvert à plusieurs sensibilités politiques. Et c'est sûr que le désaccord, le relatif désaccord qui se fait jouer avec Camus, c'est sur des questions politiques. Alors, en même temps, les trotskistes, ils étaient de toute façon très marginaux, parce qu'ils étaient très, très, très anticommunistes. Donc, ils pouvaient tout à fait s'entendre avec des sensibilités un petit peu anarchistes de droite, comme celle de Pascal Piat. Ça, c'était pas incompatible. Et ça aurait été plus incompatible avec des communistes, je pense. Parce que, voilà, bon, il faut replacer ça dans les querelles et les débats de l'époque. Mais. Donc Nadeau reste trotskiste, il le restera d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie, mais il a toujours, quand il a fait des journaux, accueilli les personnes, non pas au nom de leur étiquette politique ou même de leurs idées, mais, enfin, quoique leurs idées, quand même, ça compte un peu, mais beaucoup sur leur sensibilité littéraire, sur leur manière d'écrire aussi le temps, le présent. Donc il y a quelque chose de très ouvert dans sa personnalité, mais je pense qu'elle était aussi dans la personnalité de Piat. Mais c'est quand même lorsque le journal va devenir de plus en plus à droite qu'il va le quitter. Donc on sent cet engagement trotskiste, il est présent, mais pas de manière, il n'en fait pas des thèses. On sent qu'il rend compte de certains livres parce que ce sont des camarades qui les ont écrits, ça c'est évident. Mais il n'en fait pas une sorte de mesure à quoi on jugerait telle ou telle œuvre ou même telle ou telle pensée. Parce que je précise aussi, c'est quelque chose d'intéressant, c'est qu'il écrit sur tout. Il n'écrit pas du tout que sur la littérature. À l'intérieur de la littérature, il écrit sur la poésie, ce qu'il ne fera plus guère au moment où il aura la quinzaine littéraire, enfin dans la suite de sa carrière de critique. Mais il écrit sur la philosophie, il écrit sur les essais politiques, il écrit sur des écrits historiques. Ça, c'est le plus frappant. Parce qu'après, il va se spécialiser davantage. Et puis, ce qui est intéressant aussi, me semble-t-il, c'est que donc il assume complètement ce rôle de passeur, de fondateur, de créateur de communauté. Et il le fait avant d'exercer cet autre travail de passeur qui va lui donner sa notoriété, hein, qui est celui d'éditeur. Donc là, à ce moment-là, il n'est pas éditeur, mais il a déjà cette sensibilité à la découverte, au nouveau, qui fera de lui le grand éditeur qu'on connaît.
Et avec cette variété de goûts qui paraît d'autant plus sidérante que c'est une période très politique où, en général, chacun est assez vite un peu poussé ou conduit à se positionner, alors que Maurice Nadeau, il peut saluer l'existentialisme et en même temps s'enthousiasmer, avec des limites, pour le nouveau roman. Enfin, on a l'impression qu'il peut relire Sade et en parler très bien et en même temps s'intéresser à des choses qui n'ont rien à voir. On a l'impression qu'au fond, il avait une position d'objectivité ou de neutralité qui paraissait finalement quand même assez rare à l'époque pour être capable de s'intéresser à tout.
Alors moi, je dirais pas neutralité, je dirais plutôt une passion pour la liberté et en particulier la liberté d'expression. Et donc, il est en lutte contre toute forme de censure. Donc la décision de publier Sade, c'est contre la censure de Sade, plus que par passion pour Sade, à mon avis. De la même manière qu'il est le premier à lancer une pétition de soutien à Henry Miller lorsque Tropique du cancer est censuré à son époque. Donc il est contre toute forme de censure. Et il valorise la liberté d'expression de manière extrême, radicale. Il fait pas d'exception à la liberté d'expression. Dans le film de Gilles, il y a un moment où il parle de Céline et il dit « ça a beau être un salopard, pour moi, on n'a pas à le censurer. Aucune, toute parole a le droit de s'exprimer. » Donc il faut penser que cette passion de la liberté d'expression ne souffre aucune limite. Si on est pour la liberté d'expression, on ne la limite jamais. Et selon lui, être pour la liberté d'expression contrôlée, disons, c'est une sorte de paradoxe. Or, aujourd'hui, on est quand même plutôt souvent dans cette idée, enfin moi-même d'ailleurs, dans cette idée d'une liberté d'expression contrôlée sur certains sujets. Mais dans son esprit, c'est paradoxal et non avenu. Donc moi, je ne sens pas de neutralité. Il est conscient qu'on ne forme pas une société ni une communauté culturelle autour d'une pensée unique. Il pense que la littérature, c'est justement le lieu d'expression de pensée alternative ou de pensée neuve. Donc il est attentif à tout ce qui peut sortir de ce type. Et moi, je ne m'attendais pas à une telle valorisation, en effet, de l'existentialisme. Il reconnaît très généreusement, disons, l'importance de Sartre, l'importance aussi d'une revue comme Les Temps modernes. Parce que finalement, ils font tous le même effort dans la même direction. Donc il reconnaît Sartre. Alors il peut s'opposer à lui sur certaines propositions. En particulier, il y a toute une sorte de polémique autour du rôle de la critique, qui est d'ailleurs très intéressante. Mais il prend Sartre au sérieux, de même qu'il salue la sortie des livres de Simone de Beauvoir et qu'il est, il ne critique pas l'existentialisme. Il reconnaît son importance pour son époque.
Il a des goûts très étonnants parce que donc c'est plutôt l'amateur de surréalisme. J'imagine que Pia a cru d'abord identifier et en même temps, vous le disiez tout à l'heure, il peut s'enthousiasmer pour Romain Gary avec Éducation européenne, qui est un roman au fond de facture, en tout cas assez classique. Donc il est vraiment très étonnant par cette ouverture d'esprit, cette capacité au fond à apprécier les œuvres en elles-mêmes, détachées de leurs esthétiques originelles ou des genres dans lesquels ces productions peuvent, s'intégrer. C'est ce qui frappe aussi. Finalement, quand on remarque la masse variée de tout ce qu'il a traité, on a l'impression qu'il a vraiment abordé tous ces auteurs avec sans cesse un regard neuf, plutôt bienveillant. L'éreintement, je ne sais pas si vous voulez en parler, l'éreintement, ça n'est pas tellement ce n'est pas sa nature.
Oui, ça, en tout cas pas l'éreintement des écrivains. Il y a peut-être de temps en temps des pics. Oui, il y a une pique quand même contre François Mauriac qui justifie un peu quand on vous a montré cet extrait. C'est qu'il a été jusqu'à faire un papier dans un journal humoristique où il rédige les mémoires de François Mauriac revues et corrigées par Maurice Nadeau. Et c'est une... Ça mériterait peut-être d'en faire une lecture de quelques extraits, mais l'éreintement, il va plutôt contre l'ordre établi. En fait, s'il y a... on va parler de pensée politique, mais enfin, c'est surtout mon sentiment, c'est que mon père était un révolté qui raisonnait sa révolte. Et lorsque, par exemple, le général Gamelin publie ses mémoires et en particulier se tire un satisfecit sur la doctrine qui avait présidé à la défaite de 1940, il l'étrille, mais de façon extrêmement élégante, ironique. Et là, on voyait qu'il pouvait cogner très dur, très fort, ce qu'il ne faisait pas vis-à-vis des écrivains en général. Je ne sais pas pourquoi Mauriac ou Claudel y avait droit, mais sur d'autres écrivains, très, très peu. C'est rarement, même par la suite, parce qu'il va y avoir un tome 2 et un tome 3 de rassemblés. Le tome 2 courra des années de les lettres nouvelles, c'est-à-dire sa revue et sa collection qu'il avait publiée chez Julliard, puis chez De Noël. Ça ira jusqu'en 1966, date à laquelle il a créé la quinzaine littéraire. Ça sera le troisième tome. Eh bien, dans tous ces textes rassemblés, très, très peu de critiques virulentes. Quand il s'est laissé, surtout dans les débuts, surtout dans cet ouvrage, là, effectivement, on voit quand même qu'il savait manier le verbe.
Oui, moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'ironie, souvent, en particulier contre tous les ouvrages qui font consensus et... parce qu'il reconnaît dans ses consensus des réflexes du passé. Et en particulier, il fait comme chaque année une chronique un peu contre les prix littéraires, le prix Goncourt, l'Académie française, etc. Il y a quand même des moments, d'ailleurs assez savoureux, mais qui sont un peu destructeurs, me semble-t-il. Alors, sinon, moi, je me souviens, quand je suis rentrée à la quinzaine littéraire, il nous disait que ça servait à rien de critiquer, enfin, de manière négative, des auteurs qui commençaient, qui n'étaient pas connus, etc. Il fallait qu'une critique négative, elle ait une raison d'être par rapport à une certaine reconnaissance positive contre laquelle on s'élevait. Mais ce n'était pas l'auteur en lui-même qu'on devait attaquer. C'était plutôt le type de lecture qui en était faite dans certains cas. Donc, il favorisait plutôt l'accueil de la critique généreuse, positive. Et moi, je trouvais que c'était assez agréable. Il disait cette phrase assez évidente, c'est « il y a tellement de bons livres, pourquoi parler des mauvais ?» Oui, c'est vrai. Globalement, il faut aussi... avoir cette générosité-là, même si voilà, il y a tout un goût hein, pour la critique négative, un goût des lecteurs aussi pour la critique négative, mais il faut le faire de manière ponctuelle et mesurée. C'était ça, sa politique, disons, de critique.
Alors, j'ai cherché un auteur qui l'aurait un peu négligé. C'est vrai qu'on en trouve tellement peu. J'ai été très surpris de redécouvrir à quel point, évidemment, il avait été donc un grand lecteur de poésie, un grand amateur. Et là, son grand homme, c'est Michaud. De toute évidence, ouais. Il lui consacre vraiment plusieurs textes. Et on peut dire qu'il participe très activement à sa reconnaissance en grand poète. Et alors, par contre, j'ai trouvé l'auteur qu'il néglige, c'est Francis Ponge. De manière très étonnante, apparemment, il n'a pas... alors qu'il lit tous les auteurs du nouveau roman, ou d'ailleurs, il est très sensible à toutes les formes d'innovation. En fait, il est... Justement, c'est ce que vous disiez. On a l'impression qu'il cherche tout ce qui peut relever d'une sorte d'avant-garde constructive, où il trouve des éléments novateurs, forts... Et Francis Ponge, alors là, on a l'impression que peut-être parce que Jean-Paul Sartre s'en est déjà occupé et qu'il considère que bon là, il n'y a plus rien à faire avec Francis Ponge, ou alors ce n'était peut-être pas son goût. C'est une question en passant, mais ça m'a étonné parce que pour tout le reste, en fait, on a l'impression tout l'a intéressé, en fait.
Peut-être que Gilles a une réponse biographique. Moi, j'aurais une réponse d'une autre nature. Il me semble que son rapport à la poésie est entièrement guidé par son appartenance au surréalisme. Et Ponge est tout à fait en dehors de ça. Alors que même René Char, qui avait quitté le surréalisme dès les années 20, malgré tout, il est passé par là. Il loue beaucoup Aimé Césaire, mais il est passé par le surréalisme, c'est-à-dire Éluard, enfin tous ces auteurs-là dont il rend compte, sont des auteurs qui ont eu à voir avec le surréalisme. Il me semble que Ponge, non. Il néglige, à mon avis, tout un pan de la poésie contemporaine qui n'a rien à voir avec le surréalisme. Parce que là, il défend aussi quelque chose. Il a publié cette histoire. Il attend beaucoup du surréalisme. On sent le surréalisme... c'est pas forcément comme ça exactement qu'on le voit aujourd'hui, mais le surréalisme, pour lui, c'est la liaison la plus parfaite de la poésie, du poétique, du politique et du théorique. Donc le surréalisme, pour lui, c'est une sorte de mouvement parfait, et comme ça l'a été pour beaucoup de gens à l'époque, il en attend beaucoup. Et donc c'est pour ça qu'il défend Perret et tout ça. Et il va être déçu. Alors c'est ça qui est intéressant aussi, parce que dans cette recherche un peu, je disais, tâtonnante tout à l'heure, de nouvelles valeurs, il va comprendre... bien qu'il ait écrit cette histoire du surréalisme en 1945, etc., il va comprendre que le surréalisme, c'est peut-être pas la seule clé pour comprendre le monde contemporain et surtout pour le décrire. Et je pense que là, il y a une relative déception qui va se matérialiser ou s'incarner dans une brouille avec André Breton. Breton qui, donc, est parti aux États-Unis pendant la guerre, et dont il attend le retour, comme beaucoup de gens de ce sillage, dont il attend le retour avec beaucoup d'impatience, parce qu'il est, un peu le maître, il a rencontré Trotsky au Mexique. Voilà, on attend beaucoup du retour de Breton, et il va être très déçu, parce qu'à son retour, finalement, Breton n'a pas tellement envie de s'engager dans les affaires du temps, s'isole un tout petit peu, en tout cas, propose une poésie ou un art beaucoup plus tourné vers les rites magiques, vers des formes de spiritualité. Et là, il va y avoir une rupture qui est un peu l'élément dramatique, si vous voulez, de ce volume qui se lit, il faut bien le dire, on en a parlé avec Gilles et avec Laure, mais qui se lit comme un journal, mais comme un journal extime, c'est pas un journal intime, mais on voit vraiment au jour le jour la vie de quelqu'un qui écrit sur ses contemporains, mais on voit aussi évidemment la vie de quelqu'un qui lit, et qui prend des positions progressivement, et donc on voit aussi l'évolution de ses goûts, de ses intérêts, je dirais plus de ses intérêts que de ses goûts, parce que c'est pas seulement une affaire de goût, c'est-à-dire ce qui lui semble être important ou moins. Et donc dans cette histoire, il y a cet élément de dramatisation, qui est cet élément d'attente du retour de Breton, la déception et ensuite la brouille.
La brouille, oui, je ne sais pas si vous voulez en parler un petit peu. C'est vraiment un épiphénomène, mais j'ai découvert en lisant les entretiens que, apparemment, quand même, ça l'a beaucoup affecté ou marqué, parce que finalement, c'est un peu l'élément qui l'a perturbé dans une trajectoire par ailleurs irréprochable et impressionnante. Cette brouille, cette publication, cette chasse spirituelle.
Oui, bon, bien sûr, on peut en dire deux mots. Ce n'est pas une chose qu'il aimait vraiment beaucoup parler, parce que, en fait, il avait été très touché, mais il faut rappeler les faits. Maurice Sayet, qui était le... Alors, il faut voir aussi que la page culturelle de Combat, la page littéraire de Combat, c'était une entité. Il n'y avait pas que les textes de Maurice Nadeau. Il y avait pas mal de collaborateurs, en particulier Maurice Sayet, qui, sous le pseudonyme de Justin Saget, compilait des billets doux qui étaient mordants. Alors là, oui, c'était en fait dans le rôle de Nadeau sympa, ça y est, méchant, quoi. Enfin, en gros, c'était le partage des eaux. Et il se trouve que donc Maurice Sayet croit trouver le manuscrit d'un poème perdu dont Verlaine avait été dépositaire, qui s'appelait « La chasse spirituelle ».
De Rimbaud.
De Rimbaud,
un texte de Rimbaud.
Oui, pardon. Et Donc, ça y est, le fait publié au Mercure de France avec une préface de Pascal Piat. Mon père est embarqué dans cette histoire. C'est quand même un truc énorme. Il se laisse convaincre que, bon, il y a des possibilités que ce soit effectivement le texte authentique. Il publie, et Breton, qui n'attendait que cela, qui avait été prévenu par des libraires qui avaient eu vent bien avant, puisqu'ils allaient diffuser La chasse spirituelle dans son édition du Mercure de France, envoie dès le lendemain de la parution de Combat, qui faisait état donc de la découverte de ce manuscrit, une lettre enflammée, traînant dans la boue mon père, quoi.
Dire que c'est un faux.
En disant que c'était un faux et qu'il fallait être un piètre critique pour ne pas s'en rendre compte. Hein, mmh. Alors là, effectivement, et en plus, Breton, ensuite, a repris dans un texte extrêmement violent, dans un règlement de compte, j'ai oublié le titre.
Flagrant délit.
Flagrant délit, voilà, tout à fait. Il réglait ses comptes avec mon père. Alors, ça a entraîné une brouille. Et alors, il fallait voir qu'on est en 1949. Mon père a acquis une certaine notoriété dans la presse littéraire. Comme il ferraille d'un côté avec le Figaro, Mauriac et compagnie, et puis les staliniens, les lettres françaises, etc., tout le monde lui tombe dessus. Enfin, l'occasion de lui mettre effectivement le nez dans son erreur, l'erreur de soutien. Bon, alors, il paraît que il y en a encore qui disent que peut-être quand même le texte est authentique. Enfin bon,
il y a peu de chance, à mon avis.
Il y a peu de chance.
Mais oui, c'est... C'est quand même, ça arrive après un article extrêmement violent, virulent. On disait que c'est un critique généreux, etc. Mais enfin, il savait quand même être virulent. De déception, je vous le disais tout à l'heure, à propos d'André Breton et de son travail littéraire après son retour à Paris, donc après la guerre. Donc je vous en lis juste deux petits extraits. Donc c'est une chronique de 1949. Donc c'est juste avant la vengeance dont on vient de parler de Breton à propos de cette histoire de poème. Donc il écrit... Cette poésie ne chante pas, elle est dépourvue de rythme, de nombre et de timbre. Bon, ce genre d'extrait. Un monde sans catastrophe et d'où le mal même est absent. C'est ce que vraiment reproche Nadeau à Breton. Et je vous lis aussi cette phrase qui est très forte, je trouve. Ce monde si peu réel est toujours pris en flagrant délit de désintégration. Un monde si factice sur lequel, en tout cas, le nôtre ne porte aucune ombre. Et c'est évidemment tout l'inverse qu'il défend. Tout l'inverse. La littérature n'a de sens que si, en effet, le monde dans lequel on vit porte une ombre sur elle. Et donc cette critique de Breton est particulièrement terrible. Elle est d'une... Elle peut avoir l'air mesurée comme ça, mais elle est violemment terrible. Et il intitule son texte, André Breton, un nouveau précieux. Il le compare au précieux du XVIIe siècle. Donc il y a bien une... je dirais que c'est au-delà de l'anecdote, il y a véritablement l'illustration d'une profonde déception, d'une part, et puis de ce que c'est que la vérité littéraire pour l'un et pour l'autre. C'est évidemment pas la même. Alors je pense pas qu'on puisse réduire Breton justement à ce jugement, mais voilà, ça dit bien aussi l'importance des débats de cette époque, et une époque qui quand même, sans doute par rapport à la nôtre, comptait plus sur la littérature ou faisait plus confiance à la littérature pour constituer un socle de pensée, de communauté, de vie politique, de vie commune qu'aujourd'hui.
Alors, j'ai l'impression qu'à partir de 47-48, on voit un peu comment ces différentes carrières, disons, se construisent de manière intriquée, parce que il devient donc directeur de collection, il fait publier des auteurs, dont certains, justement, qu'il a d'abord chroniqué en tant que journaliste. On a l'impression qu'au fond, cette position à Combat, elle a aussi beaucoup aidé, évidemment, à lire énormément de tout ce qui pouvait apparaître. Et le combat qu'il a mené, justement, pour soutenir Henry Miller, lui permet de se rapprocher d'Henry Miller. On peut dire que Miller, ça a été, au fond... une de ses très grandes amitiés. Il y a eu l'amitié avec Beckett, l'amitié avec Pascal Piat, mais on peut dire que la relation à Miller, elle a été, semble-t-il, très très forte. Et pour Miller, c'est d'abord l'homme qui l'a défendu, et donc après, il en fait son éditeur, en quelque sorte, en France. Non ? Est-ce que ça
oui,
s'est passé comme ça ?
Absolument. Puis grâce aussi à lui, à d'autres... Voilà, il va se lier à d'autres figures de passeurs de littérature qui ont quand même un rôle important dans ces années. Même dans la construction européenne, il faut penser que ces gens ont eu un rôle. Hein. Donc il va publier des Italiens, Vittorini, Pasolini, Sciascia. Et puis il va avoir quand même... Il a un tropisme américain, en effet. Hein. Il aime beaucoup des écrivains comme Dos Passos, Caldwell, Richard Wright... Donc Miller, et puis il va publier, ça c'est aussi un de ses grands faits d'éditeur, donc publier le premier, la traduction de « Sous le volcan » de Malcolm Lowry. Mmh.
Oui. Moi j'ai été très, très étonné en découvrant tout cela, je me suis dit mais quelle force de travail il a eu, je ne sais pas quels sont vos souvenirs de ces années, on se dit mais le malheureux, il a dû être écrasé par la tâche parce qu'il a tout lu... Il a chroniqué avec brio tant d'ouvrages qui maintenant sont devenus pour nous des classiques, mais que lui a su tout de suite identifier comme des livres d'importance. On se dit, mais ça a dû être pour lui quelque chose de très lourd, non ?
En tout cas, il avait une puissance de travail dont je me souviens parfaitement, puisque quand môme, je me levais pour aller à l'école, je me rendais compte en ouvrant la porte du bureau... Il y avait un nuage de tabac, une fumée des gitanes, alors croyez-moi. Ça sentait fort. Il avait passé la nuit à faire son article pour pouvoir le porter soit au Nouvel Observateur, enfin France Observateur, puis par la suite, il va collaborer aussi à l'Express. Oui, j'ai eu toujours l'impression d'un grand travailleur. Hein. Mon père m'impressionnait pour cela. Et puis... La bibliothèque qui avait envahi tout l'appartement, c'était une sorte de muraille. Hein. Donc ça représentait en quelque sorte la force de travail à laquelle il était attaché. Et ça ne m'a pas empêché d'être extrêmement surpris du volume, du nombre de textes que j'ai réunis dans ce premier tome. Je pensais qu'il y en aurait moitié moins. C'est en découvrant que là aussi, etc., c'est une chose assez étonnante.
Et on peut dire que lui-même, au fond, n'a pas eu un grand attachement pour ce travail. Il a considéré que c'était un travail de journaliste. Il a donné, je crois, Littérature présente, qui était une reprise de quelques-uns de ses textes d'importance. Mais sinon, il n'a jamais vraiment voulu faire œuvre à partir de cela. Et en fait, quand on les rassemble, on voit le poids et l'importance, en fait, de ce qui a été écrit.
Oui, tout à fait. Mais alors... Il avait eu quand même l'idée hein, de publier ces textes. Surtout que Littérature présente, en fait, n'est qu'une petite partie des auteurs français les plus importants qu'il avait rassemblés. Ça date de 1952. Il y avait aussi toute la partie étrangère. Et puis, évidemment, ne figuraient pas les jeunes auteurs qu'il se plaisait à découvrir, à défendre. En faisant un petit peu, en quelque sorte aussi, anticipant sur son métier d'éditeur. C'est le nombre de jeunes auteurs, le premier roman qu'il a chroniqué, ça représente une grande partie des textes réunis. Alors, un énorme travail.
Oui, il fait parmi les premiers articles sur Claude Simon, sur Duras, sur Beckett, tous ces auteurs-là, ce sont leurs premiers textes et ce sont des auteurs qui ne sont pas du tout connus.
C'est ça, c'est impressionnant.
Oui, je pense qu'il se posait la question, et on peut se la poser d'ailleurs, je trouve. Est-ce que une écriture comme ça du jour, une écriture du journal, hein, parce que c'est le journal, je parlais tout à l'heure de journal intime, extime, mais c'est vraiment le journal dans tout le sens du terme. Est-ce que c'est voué à durer, cette écriture-là ? Elle est vraiment faite pour le présent. C'est une écriture au présent, qui s'adresse au présent. C'est pas une écriture qui se pose la question... de sa longévité ou de sa mémorialisation ou patrimonialisation. Et je trouve que c'est une question intéressante à poser. Qu'est-ce qui fait que ça a du sens de lire ça aujourd'hui ? Parce que ça a quand même été écrit pour un temps qui n'est pas le nôtre. Et je crois que là, c'est ce qui rend spécifique l'œuvre de Nadeau. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a eu il a cette relative notoriété. C'est que c'est une écriture du jour, c'est une écriture adressée à son temps, mais avec cette force de vision qui permet que ce temps déborde et rejoigne le nôtre. Et cette force de vision, elle est liée au fait que presque 60 à 80% des auteurs dont il parle sont des auteurs que nous lisons encore. Alors que si on compare, je racontais ça pour m'amuser parce que j'avais fait cet exercice il y a peu, si on compare avec la liste des Goncourt depuis la création du Goncourt, par exemple, on s'aperçoit de la proportion inverse, c'est-à-dire que des auteurs qui ont le prix Goncourt qu'on lit encore, c'est peut-être plutôt 10 à 20%. Alors que là, la proportion est sidérante. Donc il y a quelque chose qui fait qu'il écrivait certes au présent pour son temps dans un journal, mais avec sans doute une vision qui correspondait à une visée. Je dirais, que j'appellerais politique, parce que c'est le lien de quelque chose de... C'est pas politique au sens politique politicienne, mais le lien entre quelque chose de sensible et puis, de social.
Avec une grande ouverture d'esprit, moi, je trouve que c'est aussi... souvent, ils ne cherchent pas la petite phrase, le bon mot, comme tous les journalistes d'aujourd'hui qui veulent à tout prix faire le buzz. Et donc, c'est quelqu'un qui écrit de manière effectivement très simple et directe et toujours limpide et en même temps très fine. Et donc, de tous les côtés, il peut plaire et emporter l'adhésion, justement parce qu'il a ce souci d'une lecture critique objective et nourrie, ce qu'on ne trouve souvent pas aujourd'hui chez les critiques.
Alors, je pense qu'il engage sa subjectivité très fortement, donc ça, c'est important pour que les textes continuent à vivre, parce qu'un texte qui n'est pas habité par un sujet, c'est un texte qui meurt, que ça soit littérairement ou critique, tout ce qu'on veut, le texte, il doit être habité par un sujet pour continuer à vivre, donc il y a ça. Et en même temps, il a une qualité. J'essayais de comprendre c'était quoi la qualité de cette... Il arrive et on le sent aussi quand on l'écoute parler, à rendre les choses très familières. C'est-à-dire qu'il... Il nous fait entrer dans les univers qu'il évoque, comme si c'était chez lui. Il y a quelque chose de... Voilà, de très hospitalier dans cette critique. Il y a une familiarité, dans tous les sens du terme. Familiarité au sens où on accueille autrui pour essayer de le familiariser, mais aussi une forme de familiarité, d'amicalité.
Bon, malheureusement, trois quarts d'heure pour parler de Maurice Nadeau et de 1500 pages, c'est évidemment difficile. Le temps est venu de passer la parole. J'ai négligé tout à l'heure de vous présenter. Je veux quand même préciser que, à double titre, vous pouvez donc en parler. Gilles, évidemment, vous êtes son fils, vous l'avez vu travailler, mais vous vous êtes occupé de la quinzaine littéraire. Et puis maintenant, vous avez repris la maison qui porte donc le nom de Maurice Nadeau. Tiphaine, vous avez travaillé longtemps avec Maurice Nadeau à la quinzaine littéraire. Vous êtes par ailleurs donc enseignante en littérature, donc à double titre aussi, vous pouvez en parler. Je vois des gens qui s'en vont. C'est justement le moment où vous pouvez poser des questions. Alors ne partez pas tout de suite et profitez-en. Il y a mille autres choses que nous aurions pu dire. N'hésitez pas. Non. Quelques timidités. Moi, je me suis dit, pour reprendre le fil, mais n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez, que justement, ce qui a fait son talent pour ensuite révéler des auteurs... Alors bon, à titre personnel, j'ai une très grande affection pour Georges Perec, mais La Gana de Fred II, c'est aussi un autre grand chef-d'œuvre que Maurice Nadeau a publié. On se dit que tout ce travail, finalement, de repérage, des écritures qui sont justement en pleine reconstruction après-guerre, on se dit que ce travail, c'est ce qui lui a permis, c'est ce qui chez lui lui a permis d'affiner ou de mieux sentir où étaient les nouveautés. Et on se dit qu'au fond, c'est ce qui lui a permis d'être un très bon éditeur. Au fond, ça a été une bonne école pour lui, pour justement ne pas se tromper et faire les bons choix, et notamment révéler Georges Perec, mais ce n'est pas le seul. Je parle beaucoup de Perec parce qu'il a pris beaucoup d'importance, mais La Gana, c'est aussi un autre grand livre qu'il a publié. On a vraiment l'impression que ça a été non seulement un excellent travail, mais aussi quelque chose de très formateur pour lui, pour la suite de son activité.
Il y a une évidence, il y a une proximité. En effet, c'est... là, il porte une sorte de regard... à la fois de l'intérieur, mais aussi un petit peu surplombant sur la littérature de son temps. Il se rend compte qu'en ayant une forme d'autorité par rapport à ses jugements, par rapport à sa critique, eh bien, il contribue aussi à la constituer, cette littérature. Hein. Et donc, de manière assez naturelle, s'il la constitue, eh bien, autant qu'il publie, puisqu'il devient de plus en plus actif, mais ce sont des activités vraiment sans solution de continuité qui sont vraiment... les mêmes, il les conçoit de la même manière. Je pense pas que, par exemple, il valorise plus l'une que l'autre. Il se trouve que socialement, on valorise peut-être plus le métier d'éditeur que celui de critique. Mais en réalité, lui, je pense que c'est de la même manière que certains écrivains traducteurs valorisent autant leur traduction que leurs œuvres littéraires, même si socialement, on valorise plus la création autonomisée que la traduction. Donc je crois que c'est vraiment pour lui le même métier.
Moi, je pense qu'il y a une chose qu'on peut ajouter, c'est qu'on a le sentiment, dès d'ailleurs la page littéraire de Combat, qu'il s'agit pour lui de ne pas être tout seul. Il s'ingénie toujours à s'entourer de personnes, ce qui va donc lui permettre de créer une revue littéraire, et puis ensuite créer ensuite la Quinzaine littéraire. Et la Quinzaine littéraire, c'est une œuvre collective, sur laquelle un grand nombre de collaborateurs, je crois que j'en avais repéré à peu près 800 différents, mais avec aussi des piliers, une bonne centaine de collaborateurs, ont fait ce journal. Et j'ai senti au travers des années qu'ils déléguaient de plus en plus à ses collaborateurs le soin de faire l'actualité littéraire.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la façon dont le livre a été réalisé ? Parce que on se dit que ça a quand même dû être un sacré travail de collecter tous ces articles. Vous les avez, j'imagine, fait numériser pour les récupérer. Ça vous a occupé pendant...
Ah oui, c'était un beau marathon. Et le souci, une fois qu'on avait rassemblé tout ceci... c'était de savoir comment on allait les présenter. Et là, je dois tirer un bon coup de chapeau à Tiffaine Samoyo, qui m'a dit « Mais pourquoi tu t'embêtes à vouloir créer des thématiques ? Prends ça comme un journal, garde la chronologie, tu verras, ça fonctionnera. » Je me suis essayé, effectivement. Je veux dire que c'était ça le plus gros souci, c'était comment présenter les choses. Alors oui, un énorme boulot de collection de textes, oui.
Enfin, en tout cas, c'est vraiment un très bel objet que je vous invite à découvrir. Je pense qu'on peut s'arrêter là si vous n'avez pas de questions. Mais sentez-vous très libre d'intervenir. Nous avons encore un petit moment si vous le souhaitez. Oui, madame.
Oui, bonjour. Est-ce qu'il y a des textes qui peuvent être lus comme des manifestes esthétiques, des manifestes politiques qui définiraient une fonction à la littérature et dont on pourrait aujourd'hui se considérer comme les héritiers pour cette période où la question du courage se pose. Maurice Nadeau, me semble-t-il, étant une incarnation de ce courage à penser, à écrire, à créer et à donner chance à ceux qui pensaient, écrivaient, créaient, d'exprimer et de partager leur travail. Donc, question qui devient alambiquée, mais le début, c'est y a-t-il des textes qui sont des manifestes esthétiques, politiques ou philosophiques ? Ou alors, pouvez-vous dégager bon, de ces textes critiques singuliers, quelque chose qui serait une réponse à ma question. Bon, merci.
Alors, il n'y a pas de texte qui soit délibérément présenté sous forme de manifeste, à part peut-être celui que j'évoquais précédemment sur la conception de la critique, sur cette conception d'une critique morale, d'une critique fondatrice de valeurs. Donc, il y a ce texte-là. Et sinon, évidemment, constamment... Il y a une telle préoccupation sociale. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'il ne s'en tient pas finalement à son esthétique, aux esthétiques avant-gardistes qui étaient ses goûts peut-être les plus immédiats, surréalistes, nouveaux romans, etc. Parce que la fonction de représentation de la littérature lui importe. Hein, et donc dans les textes, moi j'ai été frappée dans les textes sur Romain Gary, sur Arthur Koestler et les textes sur Camus, il y a pour moi des choses qui sont des accompagnants pour aujourd'hui, enfin, des choses qui m'aident à avancer. Je ressens ça un peu constamment en fait dans la lecture. Parce que il est très actif, c'est quelqu'un qui n'est pas mélancolique. Alors, ça fait du bien, parce que, bon, moi, j'en aime beaucoup la mélancolie aussi, mais il est confiant dans la capacité de la littérature à nous faire avancer, à penser à l'avenir. Et donc, c'est une pensée, je trouve, une écriture dynamisante, qui donne envie de faire des choses. J'arrive pas à redire des choses précises. Je pense sans doute que si je travaillais un tout petit peu, je pourrais vous signaler quels sont les textes plus précisément qui peuvent être nous accompagner, disons, aujourd'hui contemporains. Mais à aucun moment, moi au départ, bon, j'ai bien connu Maurice Nadeau puisque je l'ai connu pendant presque 20 ans. Il a publié mes premiers textes et puis je l'ai accompagné avec toute l'équipe de la Quinzaine littéraire à partir de 1995. Donc j'avais l'impression de bien le connaître, mais finalement je ne l'ai connu que dans la partie tardive de son existence. Donc je n'ai jamais connu le Nadeau de ce livre. Alors c'était une découverte, c'était une surprise. Donc je voyais des éléments de continuité avec la personne que j'avais connue, qui était très très nette. Et puis je voyais aussi cette force que j'ai moins connu. Je connais, il avait une force, mais là c'est une force d'une énergie qui est stimulante.
Il y a en début d'ouvrage, d'une part la préface qu'il avait fait à Littérature présente quand il avait fait son premier recueil, où il parle du rôle de la critique littéraire. Et il ne se définit pas comme un critique littéraire, plutôt comme un journaliste parlant des livres. Et puis, il y a aussi ce texte, aussi un inédit consacré à Benjamin Perret, où, c'est un texte assez long qui vient en début d'ouvrage, qui a été rédigé en décembre 1944, juste avant de rentrer à combat, donc. Et texte qui n'a pas été publié parce que on lui avait fait comprendre que ça provoquerait des grands remous dans le mouvement surréaliste au moment où il est en train de se recomposer à la fin de la guerre. Hein. Alors l'esprit de Maurice Nadeau, ce qu'on pourrait appeler un manifeste, qui va être la foi dans l'œuvre littéraire qui va générer une revue, qui va générer ensuite la Quinzaine littéraire, c'est disséminé dans tous ces textes. Et il y a toujours une phrase, une tournure dans chacun de ces critiques qui revient, qui rappelle sa conception, en fait. Alors, c'est pour cette raison que ça se lit effectivement comme un journal.
Y a-t-il encore des questions ? Non. Alors, on peut peut-être arrêter là. Et si vous voulez justement profiter de ce moment pour venir dialoguer avec Gilles Nadeau ou Tiffaine Samoyau, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Merci à vous. Et merci à vous tous qui êtes venus. Merci à vous. Bonne soirée.